Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir qu'on vous accompagne pour une nouvelle émission de Tout Gonade. Comme vous avez pu le constater, on est passé à la version française. Donc j'ai avec moi Anne-Sophie.
Oui, salut.
Salut. J'ai avec moi Ricardo aussi.
Salut Sabrina.
Et Barbara.
Salut.
On a un invité aussi qui est là et puis on a aussi, en tant que technicien, Stéphane, qui nous accompagne toujours dans les coulisses et en silence, mais il est toujours là, donc il faut qu'on le mentionne parce que vous ne pouvez pas le deviner non plus. Aujourd'hui, vous allez connaître un petit peu mieux un jeune politicien valaisan de 31 ans, originaire de Savièse, qui est très proche de la communauté portugaise. On va un petit peu le tester à la langue portugaise. Donc, Mathias Reynard, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, vous ?
C'est parfait. Je laisse Ricardo vous tester un petit peu, vous poser quelques questions. Et puis, on interviendra de temps en temps, mais voilà.
Oui, j'adore être celui qui teste. Olá, Mathias. Então, falas um pouquinho português?
Um pouquinho, sim.
Então, e diz-me lá, onde é que aprendeste a falar português?
Em Brasil. Porque tenho família em Vitória, em Espírito Santo, mas eu falo mais que eu entendo mais que falo. Falo um pouquinho.
Ok, eu pensava que sabias português porque tinhas tido uma namorada portuguesa ou brasileira.
Ah, não.
Não, não da pode
família,
revelar.
Não namorada, da família.
Pergunta proibida. O Mathias não quer responder. Ok, então Brasil e Portugal. Conheces Portugal? Sim. Já foste?
Sim, um pouquinho, três vezes. Uma vez em Porto, uma vez em Lisboa e uma vez em Coimbra, com Ricardo.
Ah, ok. não podíamos revelar, isso era segredo.
Agora pronto. Muito mais as coisas, não é?
Ok.
E portanto, Coimbra.
Agora, a pergunta seguinte vai parecer que é feita, mas qual das três é que gostaste mais?
Coimbra.
Sem dúvida.
Então, por quê?
A cidade universitária, com muita festa.
Pois, sim. É, já, toda noite, hoje, toda eu já pensava nisso, não é?
Ricardo não, Ricardo vai dormir.
Sim,
eu sim.
É.
O Ricardo é sério.
É, ele deve sozinho e vai para a cama, não é?
Atenção que eu sou mais velho, eu fui colega da... Fui colega de escola do Mathias, mas eu sou mais velho. Sou 7 meses mais velho. Sim. E, portanto...
Ah, tens de mostrar sim. O exemplo.
Pois.
Mas o Ricardo tem uma parte assim escondida que a gente não conhece bem, assim um bocado saído da casca às vezes.
Ah, muito bem. Saído da casca. Ok. Vamos deixar os nossos ouvintes que não percebem português pensar o que é que significa saído da casca. Podem procurar no Google. O Google dá resposta a tudo. Mathias... Então, agora falando sério, Lisboa ou Porto? Aquela grande dúvida. Qual das duas, para ti?
Lisboa.
Razão?
Mas não conosco muito bom, mas muito, é uma cidade muito bonita, não sei.
Ok, tens mais feeling com Lisboa.
Sim.
É a cidade que te diz mais. Muito bem.
Boa.
Eu acho que, como nos auditeurs são... quand même essentiellement des Portugais qui vivent en Suisse et qui parlent également le français. On va peut-être continuer en français. C'est quand même une langue que tu maîtrises un petit peu mieux.
Oui.
Bon. Bien qu'il maîtrise mais, bien le portugais.
Je trouve que c'est très bien.
Très bien maîtrisé.
Bravo. Alors bravo.
Avec un petit accent brésilien.
C'est charmant. L'accent brésilien. L'accent brésilien. Alors je peux vous dire qu'à Coimbra, cet accent brésilien, ça faisait fureur.
On imagine. Ah, c'est pour ça que t'allais te coucher tôt, en fait.
Ouais, j'avais aucune chance. Alors bon, je le laisse. Je le laisse profiter un peu de la fête.
Camomille,
Ricardo. Ok, bah donc on va continuer en français. À moins que tu préfères l'allemand, Mathias.
Non, non, allons en français.
Non, en français, ok. Je me suis dit, vu que tu es en pleine campagne pour les élections fédérales.
J'étais dans le Haut-Valais d'ailleurs aujourd'hui, je dois faire campagne dans les deux parties du canton, bien sûr.
Bien sûr. Mathias, dis-moi, comment tu es ici dans cette émission qui, quand même, est censée être entendue essentiellement par la communauté portugaise, essentiellement la deuxième génération qui est ici, qui écoute notre radio. Comment vois-tu l'intégration des étrangers en Suisse, d'une façon générale, et en particulier de cette communauté portugaise en Valais? Trouves-tu que c'est une bonne intégration, une intégration réussie? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Quels sont les points les plus positifs que tu pourrais ressortir de cette intégration?
Bon, l'intégration, elle est complètement réussie pour les jeunes dont on parle de deuxième génération. Je veux dire, c'est des jeunes qui sont pas moins suisses que moi au final, qui sont nés là ou en tout cas arrivés là tout jeunes, qui ont suivi leur scolarité ici, qui maintenant travaillent ici. Voilà, ils font partie de notre canton et de notre pays. Maintenant, l'intégration, c'est toujours un défi. C'est toujours de réussir à la fois donner la place à la culture et à ce qui vient avec ces jeunes et avec ces familles. C'est normal, moi si je devais quitter mon pays, j'aimerais pouvoir garder des liens avec la Suisse, avec mes racines. Puis en même temps, permettre une intégration au mieux, ça veut dire déjà apprendre le français, ça veut dire ensuite s'intégrer au niveau du marché du travail, s'intégrer au niveau social, et c'est quelque chose qui se fait bien, mais qui est toujours un défi. Je suis enseignant, on a des jeunes qui arrivent non pas uniquement du Portugal, mais toujours d'horizons plus lointains. Et c'est un défi toujours d'intégrer ces jeunes, de leur donner une chance, de leur permettre d'apprendre la langue, de s'intégrer au mieux. C'est aussi une richesse et un plus pour la Suisse. C'est une des forces de la Suisse, c'est aussi c'est la grande diversité, les nombreux horizons qui la composent.
Ok, donc tu parles de la langue qui effectivement est essentielle. Ces jeunes qui arrivent en cours de scolarité, c'est pas toujours évident, qui ne parlent pas un mot français. Souvent, et je me rappelle dans notre génération, le problème n'était pas vraiment ces jeunes, parce que c'est une phase où très rapidement ils apprennent, ils ont un soutien à l'école. Je me rappelle que certains élèves qui arrivaient en cours de route avaient des heures supplémentaires d'appui au français. Après, le souci, c'est souvent la maison, parce que les parents ne parlent pas du tout le français. Ils sont parfois intégrés dans un marché du travail avec d'autres communautés étrangères où c'est difficile. Mais de plus en plus, on voit des communes qui offrent justement pour les adultes des cours de français. Est-ce que c'est une bonne voie? Est-ce que tu trouves qu'on en fait déjà assez? Est-ce qu'il y a des communes qui sont encore en retard sur ce point? Quelle est ta vision des choses là-dessus?
Alors, ce qu'on voit souvent, c'est que les villes en font plus, aussi parce qu'elles sont plus concernées, elles ont souvent un taux d'étrangers plus élevé. Et le défi, bien souvent, c'est vrai, c'est les parents, c'est pas les enfants. Moi, j'ai régulièrement des élèves qu'on dit allophones, donc ils parlent pas un mot de français. Quand ils arrivent dans ma classe en début d'année, à Noël, ils sont bilingues, ces jeunes. Et en fait, et encore, certainement même avant. Donc il y a une rapidité d'apprentissage qui est impressionnante quand on est enfant. Quand on est plus âgé, c'est souvent plus difficile. Et pour ça, il y a une vraie responsabilité de la part de l'État de favoriser cette intégration. Et les cours de langue, c'est central. Alors, il y a des communes qui le font. Il y a aussi l'OSEO qui le fait. Il y a l'IREÉCRIRE qui le fait. Il y a le Centre Suisse Immigré. Il y a en tout cas ces trois organisations en Valais qui proposent des cours. L'OSEO propose aussi, par exemple, des cours spécifiques pour les femmes en abordant toute une série d'éléments liés à, par exemple, la maternité ou à des choses qui peuvent concerner spécifiquement les femmes. Donc, voilà, on essaye de le faire de la façon la plus intelligente et la plus complète possible. Ça fonctionne très bien, il y a vraiment des besoins et donc il faut y répondre. Bien sûr que ça coûte un petit peu, mais ça coûte toujours moins cher à un État d'investir pour bien intégrer les gens que de se retrouver avec des gens qui sont marginalisés.
Bien sûr. Le point de départ est certainement la langue. Il faut aussi qu'il y ait une volonté d'intégration de ces gens aussi, mais au bout d'un moment, quand ils sont parfaitement bilingues, qu'ils sont intégrés au niveau professionnel, dans les sociétés, etc., ne crois-tu pas que le pas ultime pour que ces gens qui sont là, certains qui naissent là, donc les deuxièmes générations, qui font toute leur scolarité, qui parlent mieux le français ou l'allemand que leur langue de pays d'origine, qui travaillent ici, qui paient leurs impôts ici, ne crois-tu pas que le pas ultime pour qu'ils se sentent effectivement totalement intégrés ne serait-il pas, à l'image de ce qui se passe dans d'autres cantons, qu'on leur octroie des droits civiques, notamment le droit de vote ou d'être élu pour des élections locales, communales ou même cantonales, comme ça se fait par exemple à Neuchâtel, sauf erreur?
Oui, alors complètement. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le processus de naturalisation. Il y a de très très nombreux étrangers qui habitent en Valais et en Suisse qui répondent aux critères pour se naturaliser puis qui n'entament pas les procédures parce que c'est long, parce que voilà, il y a vraiment des démarches à faire. Mais moi, j'encourage quand même à le faire parce que c'est une sécurité aussi et parce que c'est finalement l'aboutissement de tout ce processus d'intégration. Et j'encourage vraiment les gens à faire ce pas et à commencer des procédures pour se naturaliser. C'est vrai qu'en Suisse, on est un des pays où c'est le plus restrictif à ce niveau-là et où il faut attendre longtemps, on a un contrôle assez strict. Il y a des aspects positifs d'ailleurs à ce fait-là, mais c'est peut-être un petit peu, parfois un peu rigoureux. Mais d'un autre côté, il y a aussi toute une série de jeunes ou même de moins jeunes qui sont là parfois depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui ne répondent pas forcément aux critères pour la naturalisation, mais qui pourraient, dans certains cantons, voter ou être élu au niveau communal ou au niveau cantonal. Et ça, clairement, c'est quelque chose que je trouverais positif. On a une révision de la Constitution qui va arriver avec la Constituante, et un des objectifs, c'est d'amener ce droit de vote pour les étrangers. Alors, quand on dit ça, tout le monde dit « Oh mon Dieu, mais on va donner le droit de vote à tous les gens qui arrivent ». Non, c'est des gens qui sont dans la même commune depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui bossent là, qui payent leurs impôts là, qui ont leurs enfants dans les écoles. Ils sont parfaitement intégrés. Donc, il y a une logique aussi à pouvoir participer aux décisions qui les concernent directement au niveau local.
Bien sûr. Et d'ailleurs, ce processus de naturalisation, ici, cette équipe qui font partie de cette émission, sommes tous déjà des Portugais de deuxième génération, ici en Valais. Exact. Donc, dans la tranche d'âge de nos parents, nous connaissons certainement beaucoup de gens qui sont là depuis plus de 30 ans et qui sont arrivés dans une phase adulte où, à l'inverse de tes élèves, c'est une phase où c'est moins facile d'assimiler parfaitement une langue, surtout quand tu travailles sur les chantiers ou dans le milieu agricole ou l'hôtellerie, qu'avec des Portugais ou d'autres étrangers. Donc des gens qui sont là depuis 30 ans, mais qui ne sont pas forcément bilingues et qui se disent, d'ailleurs dans la dernière réforme des processus de naturalisation, on a augmenté ces exigences au niveau de la langue. Trouves-tu que c'est vraiment l'élément fondamental? Est-ce que c'est plus important que la personne soit là depuis 30 ans, qui ait respecté les règles, qui ait un casier judiciaire totalement vierge, qui s'entend très bien avec les voisins, qui est depuis 30 ans sur la commune, qui parfois a investi, qui a acheté une maison dans la commune, qui paye des impôts depuis 30 ans sur la commune? Est-ce que c'est plus important? Par exemple, je te dis honnêtement, les Portugais que je connais de plus de 50 ans, qui sont arrivés déjà à un âge adulte, même ceux qui parlent bien, ils ont toujours un fort accent. Par exemple, il y a des sonorités qu'on n'a pas en portugais. Un des trucs et puis, qui fait toujours marrer les gens, puis dans les vannes, on le dit souvent, les gens ne disent pas « u ». Ils n'arrivent pas à le faire, donc ils vont dire « salou ». Ils peuvent être là depuis 30 ans, ils vont te dire « salou », ils ne vont pas te dire « salut ». Est-ce que tu trouves que ça ne peut pas être le fait que tout le monde parle de ce côté de langue et des exigences qui ont été augmentées, ça ne peut pas être un effet dissuasif pour ces gens qui pourraient très bien initier la procédure, mais qui se disent « ah non, je ne parle pas parfaitement le français ».
Et puis ce n'est pas que parler, il y a aussi l'écrit.
L'écrit,
mais là, l'exigence.
C'est un gros problème. Pas...
Mais complètement, c'est complètement discriminatoire, mais il faut voir qui fait les lois. Qui aujourd'hui au Parlement, c'est... Voilà, on a une majorité de droite dure, mais en plus de ça, c'est des classes sociales dominantes. C'est des gens qui, sont tous dans des professions où ils gagnent bien leur vie, qui ont tous plutôt eu un parcours scolaire et autres où tout s'est bien passé. Et c'est ces gens-là qui décident. Et donc, il y a des réflexes de classe, vraiment. Et en fait, aujourd'hui, la personne qui est là depuis 25 ans en Suisse, qui est parfaitement intégrée, et puis qui, effectivement, n'est peut-être pas très à l'aise à l'écrit, au français, et puis il parle avec de l'accent, mais peut-être aussi parce que dans son propre pays, peut-être qu'il n'était pas super à l'aise déjà à l'écrit, peut-être en portugais, et on lui restreint son accès à un papier pour ça, c'est complètement inadmissible. Et en fait, on sélectionne des gens en fonction de critères qui n'ont rien à voir avec des critères d'intégration. Et nous, on s'est battu là contre au Parlement, malheureusement, voilà, il y a la majorité qu'on connaît au Parlement aujourd'hui qui a voulu durcir de cette façon-là, puis qui a durcir, à mon avis, vraiment sur des mauvais critères. Moi, j'entends tout à fait quand on parle de on veut pas naturaliser des gens qui ont des casiers longs comme le bras, qui ont fait plein de bêtises, ou des gens qui font pas d'efforts d'intégration, mais complètement. Mais des gens qui sont intégrés, qui parlent la langue, mais qui ont des soucis, par exemple, à l'écrit, mais de quel droit est-ce qu'on leur restreint l'accès à la nationalité? On pourrait restreindre aussi l'accès à la nationalité à plein de Suisses. Enfin, on pourrait remettre en question leur propre accès au passeport, parce qu'il y a aussi beaucoup de Suisses, et on parle de quasiment 10% des adultes en Suisse qui ont des problèmes d'illettrisme. Mais c'est un vrai problème pour ces gens-là, qui est que la scolarité n'arrive pas à y répondre. Il y a parfois des troubles au niveau du langage ou de l'écriture et autres. Et on est en train de restreindre la nationalité en fonction de ça, c'est vraiment injuste.
Tout à fait. Donc la langue, ces gens qui ne parlent pas parfaitement le français, ça me renvoie sur l'autre côté, parce qu'on fait toujours le lien avec le Portugal. Savais-tu, Mathias, que le portugais est déjà actuellement la sixième langue la plus parlée au monde, notamment, et puis il faut le dire, il faut être honnête, je suis portugais, mais notamment, c'est surtout grâce au Brésil et aux grands pays lusophones qu'on a en Afrique, en l'Angola et le Mozambique, qui sont des pays énormes, le Brésil qui a presque 300 millions d'habitants, et des pays qui sont en train de, qui ont une croissance démographique très forte, à l'inverse de ce qui se passe en Europe. Donc, selon certaines prévisions, le portugais, dans 50 ans, sera la quatrième langue la plus parlée au monde. Est-ce que toi qui es enseignant, est-ce que tu trouves que ce serait pas intéressant d'introduire le portugais comme option spécifique au collège, aux côtés de l'espagnol, de l'italien ou même du grec? Je respecte beaucoup mes amis qui ont fait du latin grec, mais au niveau professionnel, pour les jeunes, est-ce que ce serait par exemple pas tout aussi intéressant ou pour leur futur, pour leur carrière, d'avoir une langue qui peut être utile au niveau, dans plusieurs domaines commerciaux, etc., vu qu'il y a quand même des marchés énormes en Afrique, lusophone, au Brésil, etc. Pourquoi pas introduire le portugais comme option?
Bon, déjà, pas de critique contre le latin. Moi, j'ai fait latin.
C'est pour ça que j'ai envoyé la petite balle.
Ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, pour apprendre l'espagnol et un tout petit peu le portugais. Mais par contre, oui, la réflexion, elle devrait être ouverte. Aujourd'hui, on a l'espagnol comme option, il y a l'italien, il y a évidemment l'anglais et l'allemand, il y a le grec, il y a le latin, le portugais aurait tout à fait sa place, aussi en lien avec la forte présence de portugais en Suisse et avec les liens forts qui existent entre le Portugal et la Suisse. Donc, on ne pourrait pas imaginer en faire une langue obligatoire, à l'école obligatoire, ça non, mais une langue à option, par exemple, dans un cursus post-obligatoire, ça tout à fait, ça devrait être réfléchi quand on refait les objectifs pour la Mathieu, ouais.
Et puis là j'étais parti sur la Mathieu, le niveau secondaire, mais tu as certainement beaucoup d'élèves aussi dans les écoles, que ce soit au cycle d'orientation ou même au niveau primaire portugais, qui ont ces cours de langue et culture portugaise à côté. Donc, quand on sait que les charges scolaires, le temps qu'ils doivent passer pour leurs devoirs, etc., est déjà bien élevé, ne crois-tu pas que ce serait intéressant de pouvoir inclure dans le cursus local, le cursus suisse, une tranche horaire, je ne sais pas, en leur substituant, je ne sais pas, la moitié de l'éducation physique ou des travaux manuels par ces cours de langue pour éviter qu'ils le fassent à côté, le soir, jusqu'à tard ou le samedi matin?
Bon, ça c'est toujours compliqué parce qu'il faut voir comment est-ce qu'on répond ensuite à toutes les demandes de ce genre-là qui peuvent arriver. Parce que chacun peut vouloir apprendre la langue de son pays à côté. Moi, je suis assez favorable à une école un peu plus souple, à une école qui laisse davantage de place à chaque enfant en fonction de ses besoins, en fonction de ses attentes, de parfois voilà son passé, s'il y a un passé migratoire, bien sûr. Mais il faut que ça se fasse pas au détriment de l'essentiel qu'on doit apprendre à l'école. Donc voilà, d'amener une certaine souplesse, c'est quelque chose qui pourrait être discuté, mais au détriment de quoi? C'est toujours ça le problème. Nous, on se bat par exemple beaucoup pour maintenir le nombre d'heures de français qu'on a aujourd'hui. À mon avis, ça c'est essentiel. Aussi de maintenir, voire d'augmenter les heures d'histoire et de tout ce qui est sciences humaines et sociales. Mais on se retrouve toujours avec le problème de, oui, mais dans le même temps, on doit augmenter les maths, on doit augmenter la géo. On demande à l'école de faire un peu tout, et puis c'est pas possible en fait. Donc voilà.
Oui. Et puis même l'exemple que j'ai donné, l'éducation physique a de plus en plus d'études qui veulent qu'on renforce ça parce qu'il y a des problèmes d'obésité chez les jeunes.
Qu'on en mette plus, ouais, et donc,
ouais, et puis maintenant, en plus, on a une obligation de nombre d'heures d'éducation physique. C'est le genre de choses où on a vraiment, que ce soit pour ça ou que ce soit pour l'éducation musicale ou autre, il y a vraiment eu des pressions aussi pour maintenir un niveau minimal. Et voilà, l'école, on sait toujours comme ça, on lui demande un peu de tout faire. Elle est trop rigide, ça c'est vrai, mais il y a aussi une nécessité d'un minimum de rigidité pour que tous les enfants aient accès aux mêmes compétences de base, aux mêmes savoirs de base.
Merci beaucoup pour toutes ces infos. Vous êtes sur Tougonade avec Mathias Reynard. Restez avec nous pour en savoir un peu plus sur ce jeune politicien proche de la communauté portugaise qui vous répondra encore à plein d'autres questions d'ici peu.
Radio Vibração.
Vous êtes sur Tougonade avec notre invité Mathias Reynard, un conseiller national depuis 2011, si je ne me trompe pas. Il est actuellement en pleine campagne électorale, donc vous allez en savoir plus tout de suite par rapport à ça. Et moi, je tiens quand même à souligner qu'il est enseignant à côté de faire de la politique, et puis je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire.
Effectivement, en fait, officiellement, on est un pays où il y a un parlement de milice. Officiellement, les élus à Berne, on est censé avoir un travail à côté. En fait, je suis un des seuls qui a un travail de salarié à côté. Et qui ont un travail, disons, autre que la politique, on est devenu aujourd'hui une minorité. Il y en a quelques-uns, c'est plutôt des professions libérales ou des chefs d'entreprise ou médecins ou avocats. Et puis salariés, il y en a quasiment plus. Hein, parce que ça devient toujours plus lourd, donc c'est dur de faire les deux. En même temps, je trouve la meilleure façon de garder les pieds sur terre, de rester un peu au contact avec la réalité, c'est d'avoir un boulot autre que le monde politique.
Ouais. Puis c'est de voir ce qui se passe en vrai et sur le terrain, on pourrait dire, pour pouvoir prendre des bonnes décisions.
Exactement.
Se poser les bonnes questions.
Exactement. Et il n'y a pas mieux pour redescendre sur Terre quand on sort de grandes séances, de grands blabla politiques, que d'arriver devant des jeunes de 15 ans qui ont un peu parfois d'insolence ou en tout cas qui sont pleins d'énergie et de dynamisme. Ça fait du bien. Et ça... Ouais, moi j'adore ça. Je ne pourrais pas faire que de la politique. J'aimerais ne jamais devoir faire que de la politique.
Anne-Sophie, tu es aussi institutrice.
Oui.
Le monde de la politique t'intéresse aussi ?
Alors, absolument pas. Mais le monde de l'enseignement, beaucoup. Mais voilà.
Le petit accent brésilien, ça t'a pas...
Non, ça va. Je vais garder mes deux pôles, enseignement et musique, et puis voilà. Ça me suffit.
Ricardo, tu mets mal à l'aise, Anne-Sophie.
Oui, je sais.
Elle est toute rouge.
Ah,
comment on fait maintenant?
On passe à la question suivante.
C'est ça. merci.
Mathias, donc ces élections fédérales d'octobre qui arrivent à grands pas, et puis cette année, tu t'es lancé dans un sacré défi, le Conseil des États. Peux-tu nous dire comment t'es venue cette idée? Comment as-tu pris cette décision, sachant que les deux sièges attribués aux Valais ont toujours été occupés par le PDC?
C'est justement ça le problème. C'est pas bon pour le canton du Valais d'avoir les deux sièges dans le même parti. D'ailleurs, il y a quasiment aucun canton qui fait jamais ça. C'est mieux d'avoir des représentants de deux partis différents parce que ça renforce notre présence à Berne. Si on a deux personnes qui vont dans le même groupe politique dire la même chose aux mêmes personnes, ça n'a pas la même efficacité que si on a quelqu'un dans un parti qui va contacter des gens avec telle approche, avec tel discours, telle argumentation, quelqu'un d'autre dans un autre groupe politique qui a une autre influence. Et en fait, voilà, pour prendre une image, le canton du Valais, il faudrait qu'il marche sur ses deux jambes, qu'il ait quelqu'un de droite, quelqu'un de gauche, et ça permettrait de cette façon-là d'être beaucoup plus efficace pour défendre les intérêts du canton à Berne. Après, moi, j'ai décidé d'être candidat, voilà, parce que maintenant, ça fait 8 ans que je suis au Conseil national, parce que j'ai un monstre plaisir à faire ça, j'aimerais bien pouvoir continuer mon travail à Berne. Et puis, je me dis que tenter le coup au Conseil des États, ça vaut la peine, parce que sans attaquer les adversaires et sans dire que les autres adversaires ne sont pas valables, je pense qu'il y a des bonnes candidatures autres que la mienne, mais de pouvoir apporter une vision un peu plus moderne, un peu plus progressiste, entendre quelqu'un qui vient du Valais, qui va parler d'égalité femmes-hommes, qui va parler d'intégration des étrangers, qui va parler de défense des salariés, de défense des retraites de nos personnes âgées, c'est un autre discours que celui qu'on entend d'habitude. Et je pense que ça fait du bien d'entendre aussi ce discours-là de la part du Valais.
Reprenant un peu ton idée de ce serait bien que plusieurs partis défendent parfois les intérêts du Valais, tu as quand même déjà 8 ans au Conseil national. Est-ce que au Conseil national, est-ce que ça a été possible dans certains dossiers? Est-ce que tu as fait des alliances avec d'autres élus valaisans, d'autres partis pour défendre les intérêts du Valais? Ou est-ce que tu es quand même quelqu'un de conviction forte de gauche et qui passe toujours ses convictions au premier plan?
C'est assez facile, en fait, de défendre des idées de gauche et de défendre un canton comme le Valais. La plupart du temps, j'ai pas besoin j'ai pas à réfléchir entre les deux. Quand je défends les services publics, quand je défends la poste, dans les petits villages qui sont en train de fermer tous ces offices les uns après les autres, c'est le Parti Socialiste qui défend ça, dans l'intérêt du Valais. Quand je défends des transports publics dans les régions périphériques, quand je défends le fait d'avoir davantage de cartes postaux, davantage de transports publics, pas que dans les grandes villes, mais aussi dans les régions périphériques, pareil, c'est les positions de mon parti. Quand je défends l'énergie hydraulique, quand je défends le fait d'avoir des nouvelles énergies renouvelables, dont le solaire, qui a un potentiel énorme dans notre canton, pareil, c'est les intérêts du canton. Quand je défends les gens qui sont plus dans la précarité, ou les retraités qui ont de la peine à s'en sortir, ou les étudiants via les bourses d'études, pour toutes ces catégories, le Valais, il est surreprésenté parce qu'on est un des cantons les plus pauvres, parce qu'on est un canton où souvent, pour se former, il faut quitter le canton et on a besoin d'une aide via une bourse d'études, etc. etc. Dans l'immense majorité des dossiers, je n'ai pas à me poser cette question. Et puis ensuite, il y a certains dossiers, oui, il y a certains dossiers où j'ai dû voter contre mon parti. Et c'est le cas notamment pour la politique agricole. Moi, pour la politique agricole, je sais d'où je viens. Je viens d'un dans ma famille, il y a des agriculteurs, il y a des vignerons. J'ai moi-même une vigne, c'est de là que je viens. Et moi, je n'oublie pas d'où je viens. Et donc, évidemment que sur la politique agricole, je vote quasi systématiquement contre la position officielle de mon parti. Mais ça, ce n'est pas un problème et c'est respecté à Berne. Parce que voilà, j'ai mes convictions très claires. Mais quand il s'agit de défendre le canton sur des dossiers... comme celui-là, ben je privilégie mon canton. Puis après, on a toute une série de dossiers sur lesquels on travaille au sein de la délégation valaisanne. Puis vous savez, la Suisse, c'est pas à l'inverse typiquement du Portugal. On est obligé de se mettre à de très nombreux partis pour faire une majorité. Il y a aucun parti qui s'approche ou qui peut avoir une majorité au Parlement. Ça n'existe jamais. Et donc, on est obligé de faire des alliances entre toute une série de partis. Et donc, c'est dans l'ADN d'un politicien suisse, c'est d'aller faire des alliances. Lorsque on a fait passer récemment le maintien de la redevance hydraulique, c'est très important pour nos barrages, pour nos collectivités valaisannes, typiquement, c'est une alliance en toute une série de partis. Quand on a réussi à avoir des moyens supplémentaires pour les crèches, j'ai déposé la proposition. Mais ensuite, j'ai travaillé avec des gens du PDC, avec des gens des Verts, des gens du PBD, quelques radicaux. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Et moi, j'ai du plaisir à faire ça. Oui, j'ai des convictions fortes, mais après, je sais qu'on doit construire les choses autour d'un compromis.
Ok, et puis donc ce grand défi de te lancer, ce timing, tu prends cette décision maintenant, est-ce que, je me demande, il y a plusieurs facteurs, mais lequel a été décisif? Est-ce que c'est la sortie de scène du sénateur Jean-René Fournier, qui était quand même un poids lourd, et puis c'est difficilement un siège prenable quand il était là? Est-ce que c'est un changement de mentalité dans l'électorat valaisan, dans les jeunes qui sont peut-être plus ouverts, ils sont moins conservateurs dans les mœurs? Est-ce que c'est aussi... est-ce que tu sens que les gens reconnaissent ton engagement à Berne ces 8 ans? Est-ce que tu as un feedback positif des gens autour de toi que tu côtoies? Quel a été le facteur décisif? Peut-être un peu détroit, mais lequel a été décisif pour toi?
Bon, c'est un peu de tout ça. C'est sûr que je pense pas que je serais parti contre Jean-René Fournier. Voilà, c'est quelqu'un qui était... qui est d'ailleurs toujours, qui jusqu'à la fin de son mandat, qui est peu contesté, qui faisait du bon travail en Valais, qui a fait du bon travail à Berne. Maintenant, il y a un changement, c'est l'occasion de tenter le coup. Et puis évidemment, le fait de... Je pense, il y a un changement dans le canton, ça c'est sûr, on le voit tous, on le sent, avec les changements de génération. Déjà, les gens votent de moins en moins les partis. On a de plus en plus de gens qui votent les personnes, qui prennent parfois des listes blanches puis mettent les noms des gens qu'ils aiment bien, ou alors si vraiment ils sont le plus proche d'un parti, ils vont en tout cas cumuler, tracer, changer, etc. Il y a peu de gens maintenant qui prennent une liste de partis puis qui mettent dans l'urne. Et ça, bien sûr que ça profite plutôt aux gens qui ont une vision peut-être un petit peu plus ouverte, un peu plus progressiste.
Et qui sont proches des gens.
Je pense que ça aide.
Exactement ce qu'on discutait tout à l'heure, qui voient la réalité de ce qui se passe en bas et puis qu'on n'est pas perché là-haut parce qu'on voit les problématiques de tout le monde. Et puis de savoir d'où on vient, c'est très important, je pense.
Exactement. Ouais. Et voilà, j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui est... J'entends souvent des gens qui me disent « Je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, je ne suis pas socialiste, mais je te donne une voix parce que tu fais du boulot à Berne. » Et puis tu t'es pas pris la tête et tu t'es resté le même. Et ça, je pense que c'est important. La politique, en tout cas dans notre pays, ça doit vraiment être un truc où... On fait notre mandat, c'est 4 ans, peut-être que le peuple nous redonne 4 ans ou 8 ans, et puis ensuite c'est fini, ensuite on se retire. Et garder cette humilité-là, je pense que c'est important et c'est assez apprécié. Et puis de faire au mieux, moi j'essaie vraiment de faire au mieux mon travail. Les Valaisannes et Valaisans, ils savent que s'ils me votent, le lendemain de l'élection, moi je me remets dans les dossiers, puis je rebosse, puis si c'est au Conseil des États, j'ai déjà les relais, le truc, que n'ont pas tous les autres candidats. Donc c'est sûr que peut-être ça peut être utile pour défendre au mieux le canton.
C'est clair. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que quand on veut avoir l'attention des personnes qu'on a en face de nous, il faut qu'on leur ressemble. Et puis, moi, je te vois là devant moi et puis je trouve que tu me ressembles comme tu ressembles à n'importe qui. C'est vrai que quand tu vois des politiciens, en général, tu te dis « Ah, lui, il est politicien parce qu'il arrive, il est habillé comme ça et comme ça. » Et là, non, toi, tu viens, t'es tranquille, tu te prends pas la tête. Et ça, je trouve très, très agréable de la part d'un politicien. C'est vrai que... c'est vrai qu'ils sont pas tous comme ça. Et puis je trouve que c'est très agréable. Pour avoir l'attention de quelqu'un, il faut qu'on leur ressemble. Ceux qui ressemblent à l'autre, on aura plus l'attention de cette personne. Et puis on n'a pas cette impression qu'on nous prend de haut et puis que on sait quelque chose de moins qu'eux ou on est moins intéressant qu'eux.
Mais je t'assure qu'il est aussi très beau en costard. Si tu as l'occasion d'aller à Berne, Mathias est quelqu'un de toujours entre ses multiples commissions et travaux parlementaires, qui trouve toujours un petit créneau pour faire une visite du Parlement. Donc tu le verras en costard, il a fière allure.
On fera une visite.
Avec plaisir, je vous accueille.
Okay, bah c'est cool alors.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Le fait de ressembler au bas peuple, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est important parce qu'on a l'impression que la problématique va être traitée. Tandis que si on a un politicien qui est un peu plus hautain, on a l'impression de parler dans le vide. Ouais. Et ça, pour ça, merci Mathias Reynard, parce qu'on a l'impression d'être entendu et on a la sensation que les choses avancent.
Bah, j'essaye en tout cas au mieux. Et d'ailleurs, l'immense majorité en fait, des propositions que je fais à Berne, elles ne tombent pas du ciel, c'est des gens qui m'ont écrit. Typiquement, j'ai essayé il n'y a pas très longtemps de faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Mm-hmm. C'est parce que j'ai reçu des témoignages mais dramatiques de personnes qui avaient vécu des burn-out, parfois mm-hmm. avec des issues terribles. Voilà. Mm-hmm. Et bah, voilà, je pense que c'est notre rôle de politique de relayer, d'être en quelque sorte des porte-voix, de relayer des préoccupations de la population, des citoyennes et citoyens.
Merci.
Mathias, si tu es bien placé au premier tour du scrutin, crois-tu pouvoir compter sur le soutien d'autres candidats pour briser ce monopole démocrate-chrétien ? Je pense notamment à un autre jeune très en vue à Berne aussi, le PLR Philippe Nanthermot.
Ben, le truc, c'est qu'il faut voir comment ça va se passer au premier tour. Peut-être qu'au premier tour, c'est très clair, puis il y en a deux qui se dégagent vraiment, puis ce sera les deux là, puis voilà. Puis peut-être que c'est assez ouvert, et puis moi, je ne sais pas si j'irai au deuxième tour. Ça va dépendre du score du premier. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir, dans certains cas, un peu une sorte d'alliance de minoritaires où les gens disent on veut du changement, on veut que ce soit plus un seul parti. Voilà, il faudra vraiment voir comment ça se passe, les résultats du premier tour. Moi, j'aime pas trop ces petites alliances politiques.
La question va dans les deux sens. Imaginons que Philippe Nanthermot arrive avant toi, au premier tour, et puis que tu vois qu'il a plus de chances de briser ce monopole démocrate-chrétien. Serais-tu prêt à te rallier à sa candidature au deuxième tour ?
Comme j'ai dit, moi, j'aime pas les alliances politiques, les petits calculs et tout ça. C'est vraiment un truc que je fais jamais. Ce que je sais, par contre, c'est que bien, il y a eu dans de nombreuses élections un peu un coup de main comme ça entre radicaux et socialistes, que ce soit au Conseil d'État, que ce soit au Conseil d'État. Il y a souvent eu des reports de voix comme ça et un soutien de ce type-là. Voilà, on verra bien. Moi, je vais pas en tout cas forcer. Je vais pas aller au deuxième tour si ça s'est pas bien passé au premier.
Ok. Très bien. D'ailleurs, tu viens de Savièz. Historiquement, il y a eu quand même durant plusieurs années une entente entre socialistes et radicaux à Savièz, si je ne me trompe.
Ouais, c'est juste. Il y avait cette alliance pendant très longtemps. Moi, je me suis jamais trop occupé de politique communale. Ça m'intéresse moyennement. Puis toutes ces histoires d'alliance entre partis.
À la base, c'était aussi une alliance pour avoir une chance contre le PDC qui en valait le poids lourd était, et puis continuer à être un peu le poids lourd.
Exactement. Mais à la fin. Un parti qui tout seul est majoritaire, c'est jamais bon. Qu'il soit socialiste, PDC, c'est jamais bon. Il vaut mieux avoir plusieurs partis qui doivent se mettre ensemble pour faire une majorité.
Ok.
Parfait. Un grand merci pour déjà toutes ces informations. Nous, on revient dans un petit moment avec plus de questions et puis plus d'infos à vous donner pour la dernière partie de notre émission Togonana.
Radio Vibration.
Vous écoutez notre émission Tougonade avec Mathias Reynard, un des seuls politiciens aussi proche peut-être des Portugais, du peuple portugais vu son parcours, n'est-ce pas ? Je laisse Ricardo reprendre un petit peu cette partie politique parce que c'est un petit peu plus son truc que le mien.
Partie électorale, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup. Mathias, si tu es élu au Conseil des États, ce que je te le souhaite en tout cas, au niveau personnel, est-ce qu'il y aura une différence dans ta façon de faire de la politique ? Parce que le Conseil des États, on l'associe quand même généralement à des gens plus vieux, on les appelle les sénateurs. Est-ce que tu deviendras plus sérieux ? Est-ce que que tu seras moins osé parfois dans tes propos et dans la, même, je sais pas, ta tenue vestimentaire, comme Barbara le disait, c'est quelqu'un qui est Sabrina, excusez-moi, qui disait que tu es quelqu'un de très décontracté. Est-ce que tu changeras quelque chose dans ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon...
Bah, la seule chose que je devrais changer, c'est que quand j'irai à Berne, je devrais mettre une cravate. Je mets pas de cravate, normalement je mets un costard, mais pas de cravate. Et puis au Conseil national, c'est pas obligatoire, mais au Conseil des États, c'est obligatoire. Donc voilà, je devrais m'acheter quelques cravates, comme quand j'ai été élu à Berne, j'ai dû m'acheter des costards parce que j'en avais pas. Donc voilà, ce sera juste ça comme changement. Sinon, non, je crois que le but, c'est d'être la même chose pendant, enfin, dans la vie de tous les jours qu'en politique. C'est, voilà, c'est de rester le même et puis de ne pas changer en fonction des fonctions.
Ok. Et donc, de nouveau, si tu es élu, est-ce que tu peux nous avancer quels seront, a priori, bon, après, c'est vrai que les choses évoluent, les circonstances, de nouveaux sujets peuvent apparaître. Comme tu dis, tu es attentif aux gens qui viennent vers toi, donc qui te rapportent certaines situations personnelles, graves, qui après sont répliquées, puis qui atteignent parfois plusieurs autres personnes. Mais en ce moment, si tu devrais sortir trois grandes priorités, si tu es élu de ton mandat, ça serait quoi ?
Bon, des priorités, j'en ai énormément. Maintenant, si je regarde ce qui vient aujourd'hui au Parlement sur la table, il y a toute la politique familiale. On est en pleine discussion autour de la question du congé paternité ou congé parental. La Suisse, on est le seul pays d'Europe qui n'a pas de congé paternité ni congé parental. Donc, à la naissance d'un enfant, le papa a un jour et puis il retourne bosser. C'est complètement fou, mais ça reste encore comme ça en Suisse. Moi, j'avais fait une proposition pour venir avec un concept de congé parental en disant c'est 14 semaines pour la mère comme aujourd'hui, on donne 14 semaines pour le père et on donne 10 semaines, donc comme ça impacte de façon exactement similaire le père et la mère à la naissance d'un enfant, ce qui aurait aussi une certaine logique en termes d'incidence au niveau professionnel. Aujourd'hui, les jeunes femmes sont souvent discriminées sur le marché de l'emploi parce que on va dire ouais, mais vous allez tomber enceinte, ça aura des conséquences. Le jour où c'est la même chose pour un homme ou une femme, le moment où il y a un enfant, ben il y a cette discrimination qui disparaît, puis ça permet d'avoir aussi une implication des pères dans l'éducation des enfants. Ça permet de soulager la mère durant les premières semaines qui sont souvent très compliquées, et ça permet d'avoir une meilleure répartition des tâches et donc d'avoir 14 semaines pour le père, 14 semaines pour la mère, puis 10 semaines à se partager. On arrivera à 38 semaines. Alors certains lèvent les bras au ciel puis disent mais c'est pas possible, avec quel argent, mais c'est incroyable, c'est beaucoup trop. La moyenne dans l'OCDE, c'est 54 semaines. Et nous, on parle de 38 et on nous dit déjà que c'est fou. Donc, il faut juste revenir un petit peu à la raison. La plupart des pays européens le font déjà, ont déjà des congés paternité et parentaux relativement importants. Et en fait, c'est bon aussi pour l'économie, c'est bon pour la productivité, puis c'est bon pour les gens, pour la famille, pour le bien-être. Et puis pour les enfants, bien sûr. Puis ça, c'est vraiment un des trucs qui me tient le plus à cœur. Sinon, il y a toute la politique climatique qui va arriver aussi, qui va revenir au Conseil national d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Donc ça aussi, c'est un dossier crucial avec l'urgence climatique. Pas besoin, je crois, de faire un dessin. C'est vraiment une des priorités. Puis moi, j'ai un dossier qui me tient beaucoup à cœur. Et puis, on votera là-dessus en début d'année 2020. C'est la norme contre l'homophobie. C'est une proposition que j'ai déposée en 2013. Il y a un référendum qui a été déposé suite à l'acceptation de la norme en fin d'année passée. Puis le peuple votera en début d'année prochaine. Voilà, c'est exactement comme le racisme. L'homophobie, ça ne doit pas être une opinion, ça doit être un délit, puis ça doit être condamné. Donc voilà, quelques-uns des combats qui me tiennent à cœur pour ces prochains mois. Mais voilà, ça peut être aussi au niveau plus syndical. On mène beaucoup de combats en ce moment, que ce soit pour une revalorisation des rentes AVS qui ne permettent pas de s'en sortir, ou que ce soit pour des revalorisations salariales, notamment dans le secteur de la construction qui a ces derniers mois beaucoup été mis sous pression.
Donc tu parles de cette question de l'homophobie, de ces situations discriminatoires, le racisme. Tu es très attentif à ces questions parfois de violation de droits des minorités. Donc je voudrais te demander comment penses-tu que l'État traite d'une façon générale les naturalisés, les binationaux, il y en a certainement beaucoup qui nous écoutent. Est-ce que tu penses que la Suisse, l'État suisse, traite de façon tout à fait égale un Suisse d'origine et un Suisse naturalisé ? Ou penses-tu qu'il y a des situations discriminatoires qui sont évidentes ?
Bon, je pense que globalement, on est un pays dans lequel on est bien traité, et les minorités aussi sont plutôt bien traitées, mais il y a clairement des situations discriminatoires qui existent. Moi, j'en ai eu une qui m'a été annoncée il n'y a pas très longtemps, c'est cette question de la taxe militaire, dont vous avez certainement entendu parler. En fait, les jeunes portugais sont quasiment les seuls concernés. En fait, c'est des jeunes qui se sont naturalisés, qui ont payé les années de taxe militaire qu'on leur a demandé de payer ou c'était prévu de payer, et puis qui, 2-3 ans après la fin du paiement de cette taxe, on leur dit non, mais maintenant vous allez recommencer à payer durant 4-5 ans, et ça c'est complètement inadmissible, c'est de la rétroactivité, c'est se moquer des gens, c'est juste aller flouer les gens et leur prendre leur argent alors qu'on leur avait promis qu'il n'y aurait pas ce genre de taxe qui serait prélevée ensuite, et c'est vraiment une discrimination qui touche une catégorie très spécifique de la population, des naturalisés, et plutôt les Portugais, puisque pour les Français, par exemple, ou pour les Italiens, il y a des accords qui font qu'ils ne sont pas concernés.
Et d'après ce que j'ai vu concernant ce cas concret, où c'est vrai qu'on t'a vu, je t'ai lu dans plusieurs articles, j'ai vu que d'autres députés, conseillers nationaux avaient aussi pris la parole pour s'indigner sur ce sujet, notamment Lisa Mazon, qui avait participé à la commission et qui avait un peu créé un scandale disant que cette question de rétroactivité n'avait pas du tout été abordée lors des travaux de la commission. Guillaume Barazon, qui est avocat de profession, sauf erreur, et qui est PDC, de nouveau, là, on voit un sujet qui a fait réagir un socialiste, une verte et un PDC, donc c'est pas une question de parti, et qui lui avait plutôt vu la question du côté juridique, avec il avait posé une question au Conseil fédéral très très précise en faisant ressortir certaines violations de principes basiques d'un état de droit comme la Suisse, d'ailleurs donné comme exemple assez souvent comme un état de droit démocratique assez exemplaire. Il y a, sauf erreur, la semaine passée, une réponse du Conseil fédéral. Dans quel sens va cette réponse, Mathias ?
Le Conseil fédéral nous dit qu'il n'y a rien à changer et qu'ils vont continuer à récolter ces taxes. C'est inadmissible, la réponse n'est vraiment pas sérieuse. On nous dit en gros, peut-être ça ne respecte pas la Constitution, mais on va quand même le faire. Et puis ça nous dit aussi qu'il n'y a pas de rétroactivité. Alors que clairement, je veux dire, ça, des gens à qui on a dit vous allez payer jusqu'à 30 ans, ils ont payé jusqu'à 30 ans, puis à 33 ans, on leur dit oh, vous allez recommencer à payer jusqu'à 37 ans. Puis c'est un pourcentage du salaire, évidemment que c'est souvent pas le même à 35 qu'à 20 ans. Donc voilà, c'est purement discriminatoire. Et en gros, le monde politique s'en fout un petit peu parce que ça concerne une minorité. Et puis moi, c'est une raison de plus de m'engager.
Je sais pas si vous trouvez ça normal, mesdames.
Absolument pas. Mais voilà, j'ai pas vraiment d'autres commentaires. Je trouve ça pas très correct vis-à-vis des gens qui ont... Voilà, on fait une sorte de contrat et puis on accepte ces conditions, et puis en fait, on nous change
en
cours de route.
Si à la fin du contrat, on nous le change.
Et ça, je trouve ça pas correct. Voilà.
Exactement.
Même plus qu'à la fin, parce que gens vont perdre confiance en l'État suisse. Parce qu'ils se font, excusez-moi du terme, mais couillonner, finalement, après le contrat terminé.
C'est exactement pour une des raisons pour lesquelles ceux qui sont naturalisés et qui peuvent aller voter pourrait éventuellement voter pour toi, Mathias. Une des autres choses, c'est aussi pour les... Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais d'où tu viens et tu l'oublies pas, et ça, c'est génial. Tu es proche des gens, tu es comme nous, donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Je te remercie de ta participation. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. On arrive au bout de cette émission. Je remercie Ricardo pour son travail. Hein. Et vous, les filles, d'avoir accompagné. C'est vrai que cette fois-ci, on a un petit peu moins parlé, mais voilà, ça sera pour les prochaines. Puis à la prochaine, il y aura Chris qui va nous rejoindre du nouveau. Donc, ça sera avec plaisir qu'on l'accueille pour la prochaine émission. Je te remercie. Je vous souhaite une toute bonne suite. À tout bientôt.
Merci, Sabrina.
Merci pour l'invitation. À bientôt.